Monsieur Thierry Zenet, bonjour.
Bonjour.
3 ans après la mise en place du plan de redéploiement de l'autorité de l'État, quels sont les goulots d'étranglement qui mine ce processus?
Suite au bilan qui a été commis, que l'expert a pris sur lui de nous présenter ses conclusions. Et les premières conclusions que nous pouvons tirer, que la mise en œuvre de la RESA, la stratégie de restauration de l'autorité de l'État, a souffert d'au moins 3 maux qui ne sont pas des moindres. D'abord, il y a le cadre juridique qui devrait sous-tendre la mise en œuvre, qui est disparate, éparse et qui ne permet pas vraiment de réunir tous les aspects de la mise en œuvre de la RESA. Et il a été question, bien sûr, de pouvoir revisiter ce cadre juridique, de reprendre le cadre et de l'adapter au contexte RESA actuel.
C'est-à-dire faire une refonte du statut général de la fonction publique?
Non, pas du statut général de la fonction publique, mais une refonte des textes. Parce qu'on avait commencé avec le redéploiement avec la CNERAP, qui est la Commission nationale pour le redéploiement de l'administration publique. Et maintenant, nous avons la structure de suivi, ça, qui prend le relais. Malheureusement, les textes entre ces deux structures sont des textes différents. Et dans l'application des textes, on continue encore à faire allusion à la CNERAP, alors qu'il y a le comité de suivi RESA qui est là et qui existe. Et la hiérarchie des textes voudrait que les textes inférieurs, c'est-à-dire les arrêtés pris par le ministre de l'Administration et du Territoire, s'effacent, s'éteignent par rapport à l'arrêté pris par le Premier ministre concernant le comité de suivi. Malheureusement, cela n'a pas été fait et les acteurs continuent à utiliser ces deux moyens juridiques ainsi que les usagers qui continuent à utiliser ces deux services qui ont été proposés. Ensuite, il y a l'aspect redéploiement, les difficultés liées au redéploiement, l'insécurité, les fonctionnaires qui partent sur le terrain et prendre service et qui reviennent sur Bangui et qui ne repartent jamais et qui émargent encore sur le budget de l'État. Les difficultés d'accessibilité de certaines zones, les infrastructures routières ne sont pas là, les difficultés liées au bureau. Lorsque vous êtes affecté à l'intérieur du pays et que vous n'avez pas de bureau de travail, vous n'avez pas les moyens de travail, quel travail vous allez pleinement réaliser dans votre zone d'affectation? Aucun. Et lié à cela, le fait que la RESA a eu comme difficulté aussi majeure la communication autour de la RESA. La population n'est pas suffisamment sensibilisée sur la RESA. Le comité de suivi ne parle pas assez aussi de la RESA, à telle enseigne que la RESA, qui est une politique publique qui devait permettre le redéploiement des fonctionnaires et agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national, a sérieusement du plomb dans l'aile.
Aujourd'hui, le gouvernement lui-même se tire une balle dans les pieds en ne prenant pas des sanctions contre certains fonctionnaires qui sont dans les zones vertes, mais qui volontairement ne veulent pas aller prendre service sous prétexte d'être nommés dans certains cabinets. C'est ce que vous avez décrié. À ce niveau, quels sont les axes de proposition que vous avez fait au gouvernement?
Nous savons que la question de sanctions est une question importante dans l'administration. Hier, à la radio, on écoutait des décrets sanctionnant des fonctionnaires agents de l'État. Depuis un certain temps, on n'écoute plus ces décrets, on n'écoute plus ces arrêtés. Ça signifie que les responsables, peut-être, ont pensé qu'ils avaient de meilleurs fonctionnaires et agents de l'État et qui ne mériteraient pas d'être sanctionnés. Malheureusement, nous savons que ces fonctionnaires et agents de l'État sont coupables de beaucoup de manquements qui devraient appeler des sanctions administratives. Et cela ne se fait pas, à telle enseigne que aujourd'hui, lorsque dans l'administration, on parle de sanctions contre un fonctionnaire, le fonctionnaire prend vraiment ce problème d'homme à homme. Ce n'est plus la question de manque de respect de la déontologie qui entraîne la sanction, mais la question de problème particulier entre X, qui est le supérieur hiérarchique, et Y, qui est le subalterne. Or, le problème ne devait pas se poser en ces termes. Beaucoup de cas de manquement dans l'administration ont été élevés au niveau des responsables, des décideurs. Mais ces manquements n'ont jamais connu un début de solution. Et ça pose un problème sérieux dans l'administration centrafricaine. Et nous pensons que nos responsables doivent se réveiller et agir en conséquence. Sinon, l'administration connaîtra toujours du plomb dans l'aile.
Il n'y a pas que les mauvais cas, il y a des cas des bons élèves, des fonctionnaires qui, malgré le contexte difficile, travaillent aussi à l'intérieur du pays, mais que parfois ne sont pas reconnus, ne bénéficient pas de distinctions honorifiques ou encore de bonifications. Vous avez fait une recommandation forte là-dessus. Pensez-vous qu'il y aura une cohérence entre ce que fait le ministère de la fonction publique, qui est le chef des fonctionnaires de tutelle, et le gouvernement pour qu'il y ait une mesure d'encouragement dans ce sens?
Nous devons cesser de prôner dans l'administration centrafricaine la culture de l'impunité. Quand un fonctionnaire agit mal dans un poste A, on préfère le retirer de ce poste A pour le nommer dans un poste B, un poste parfois même supérieur au poste antérieur. Et ça décourage les bonnes volontés, les fonctionnaires qui vraiment sont au service de l'État, les véritables commis de l'État qui se donnent corps et âme pour pouvoir apporter leur contribution à l'administration centrafricaine, à l'État centrafricain. Ceux-là sont les oubliés, le plus souvent. Même pas de brin de reconnaissance à titre de lettre d'encouragement, à titre de distinction honorifique, à titre de bonification, rien, rien. Ils sont complètement oubliés à tel point qu'ils arrivent même à se poser la question de savoir est-ce que vraiment ce que je fais, c'est du bon travail ou est-ce que je dois continuer à travailler comme je le fais habituellement ou à changer de fusil d'épaule, à faire comme les autres. Ça pose un problème sérieux au niveau de l'administration centrafricaine. L'État doit encourager le mérite. Lorsque le Centrafricain mérite, lorsqu'il a donné les preuves de ce qu'il devait faire, mais il faut l'encourager. L'encouragement, ce n'est pas l'argent qu'on demande à l'État de donner aux fonctionnaires, mais de dire, par exemple, que mais une lettre de félicitation, Monsieur X, fonctionnaire A, moi, ton ministre, je te félicite pour le travail que tu as accompli. Cette lettre-là fera la fierté de ce monsieur, de cette dame, qui pourra peut-être la garder pour les générations, ses descendants, pour leur montrer que moi, j'avais bien travaillé et j'ai reçu une lettre de félicitation. Ça encouragerait alors sa génération à pouvoir aussi faire en sorte que eux aussi travaillent bien pour bénéficier d'une lettre d'encouragement, d'une lettre de félicitation. Malheureusement, l'État traîne les pieds. Regardez la pléthore des distinctions honorifiques qu'on donne. On donne à tour de bras à n'importe qui, pas aux méritants, la plupart. Regardez, évaluez, vous verrez. Et ça révolte les travailleurs, ça révolte les véritables agents et fonctionnaires de l'État.
Monsieur Thierry Zenette, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.